À la une de ce journal, l'Iran affirme qu'un accord sur la relance du JCPOA est accessible si les États-Unis agissent de manière pragmatique. Nous sommes proches d'un accord, même s'il reste des questions en suspens, a insisté Amir Abdollahian. Et puis, Ansar Allah yéménite annonce un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran affirme qu'un accord sur la relance du JCPOA sera à portée de main si les États-Unis agissent de manière pragmatique. Henrik Mora, vice-ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et coordinateur des pourparlers de Vienne, qui est arrivé à Téhéran, a rencontré Ali Boeri, négociateur en chef de l'Iran et vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires politiques. Lors de la réunion, les deux parties ont discuté des dernières évolutions liées à l'avancement des négociations sur la levée des sanctions à Vienne, ainsi que des questions en suspens. Faisant référence au sérieux et la détermination de la République islamique d'Iran à finaliser l'accord à Vienne, le haut négociateur iranien a souligné qu'un accord pourrait être conclu si la partie américaine était réaliste. Henrik Mora, le coordinateur des pourparlers de Vienne, a pour sa part présenté un rapport sur ses dernières consultations avec les autres parties négociatrices. Ali Boeri et Henrik Mora continueront à se contacter et à se consulter étroitement dans les prochains jours. Sachez d'autre part que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la reprise des pourparlers visant à lever les sanctions contre son pays reste à l'ordre du jour du gouvernement. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, s'exprimait lors d'une interview accordée à la radiodiffusion nationale qu'un accord est proche mais que certaines questions clés restant en suspens sont à résoudre. Le haut diplomate iranien a déclaré que toute solution doit s'inscrire dans le cadre strict de l'accord de 2015, connu officiellement sous le nom de JCPOA. Selon le ministre, de grands progrès dans la levée des sanctions ont déjà été réalisés. Ces commentaires ont été faits avant l'arrivée à Téhéran dimanche du coordinateur de l'Union européenne pour les pourparlers, Henrik Mora, afin d'aborder les questions en suspens. L'Iran se dit favorable à un accord satisfaisant et durable si Washington lève les sanctions de manière vérifiable. Téhéran exige des garanties qu'il n'y aura plus de retrait américain d'un accord comme ce qui s'est passé en 2018 avec Donald Trump. Le Yémen annonce un cessez-le-feu unilatéral, suspendant toutes les attaques de roquettes et de drones contre l'Arabie saoudite et affirme sa volonté de transformer cette déclaration en un engagement permanent. Mahdi Mashhad, un haut responsable d'Ansar Allah, a déclaré que l'Arabie saoudite doit mettre fin, une fois pour toutes, à son blocus de la République du Yémen. Il a ajouté que le Yémen est également prêt à procéder à un échange complet de prisonniers. Il a appelé l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen à prendre des mesures pour préparer les accords permettant de procéder à ces échanges. Pendant ce temps, le chef de l'équipe de négociation yéménite a déclaré que Riyad doit prouver son sérieux en réponse au plan de paix yéménite, en répondant au cessez-le-feu, en levant le siège et en retirant ses troupes. Ces développements interviennent après les frappes de l'armée yéménite visant plusieurs sites au cœur de l'Arabie saoudite, notamment une installation pétrolière d'Aramco à Jeddah et des sites vitaux dans la capitale, Riyad. Dans un rare message public de soutien, Israël exprime sa sympathie envers l'Arabie saoudite suite à une vague de frappes yéménites sur plusieurs cibles dans le royaume. Le premier ministre Naftali Bennett a exprimé la tristesse d'Israël pour Riyad à la suite de l'attaque qu'il a qualifiée d'horrible. Il faisait référence à une vague de frappes de missiles et de drones que l'armée yéménite a menée sur plusieurs sites au cœur de l'Arabie saoudite à l'occasion du 7e anniversaire de la guerre meurtrière il y a 2 jours. Ces attaques ont provoqué un gigantesque incendie dans une installation de stockage de pétrole d'Aramco à Jeddah. Le régime israélien n'a pas de relation officielle avec l'Arabie saoudite, mais les Émirats arabes unis et Bahreïn, tous deux alliés de Riyad, ont normalisé leurs relations avec Israël il y a 2 ans. En janvier, Tel Aviv a offert un soutien en matière de sécurité et de renseignement aux Émirats arabes unis après qu'une frappe meurtrière au Yémen ait touché sa capitale, Abu Dhabi. Enfin, Biden a mis en garde contre un long combat à venir. Le président américain Joe Biden, en déclarant avec force samedi que le président russe Vladimir Poutine ne devait plus rester au pouvoir, a mis en garde contre un long combat à venir. Joe Biden, s'exprimant à la fin d'un discours de synthèse prononcé dans l'eau froide devant le château royal de Varsovie, a appelé à un changement de gouvernement en Russie et a déclaré que, pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Dans son discours, qui a tracé une ligne nette entre les démocraties libérales et le type d'autocratie supervisée par Poutine, Biden a mis en garde contre un long combat à venir. Dans cette bataille, nous devons être lucides. Cette bataille ne sera pas non plus gagnée en jours ni en mois, a-t-il déclaré. Selon CNN, c'était le plus loin qu'il était allé en appelant à des changements au sommet du gouvernement russe et reflétait une escalade significative dans son approche rhétorique à Moscou. Des responsables américains avaient déclaré précédemment que retirer Poutine du pouvoir n'était pas leurs objectifs. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Un seul missile de croisière Hoth 2 a fait voler en 1000 éclats les réservoirs d'Aramco à Jeddah. Les méga-explosions à Jeddah ont été provoquées par un seul missile de croisière de type Hoth 2 d'Ansar Allah. Ce dimanche 27 mars, plus de 48 heures après le Big Bang balistique d'Ansar Allah, en plein cœur du royaume des Salman, Big Bang, qui s'est soldé pour seulement l'un des 18 sites aramcoïens, visé en moins de 6 heures par le démantèlement total des réservoirs du port stratégique de Jeddah, lesquels n'existent plus, totalement consumés par le feu, et remportant avec eux, en à peine un jour et demi, quelques 5 millions de barils de pétrole d'une valeur de 600 millions de dollars, soit un quart des réserves pétrolières mensuelles saoudiennes, destinée aux ports transatlantiques, d'autres rares voix osent à Tel Aviv se livrer à cet exercice éminemment périlleux qu'est l'analyse des opérations balistiques d'Ansar Allah, qu'on sait être quand ils sont de grande envergure, détournant dans la doctrine de la guerre asymétrique. Le sioniste Yaron Schneider, chroniqueur de la chaîne 12, prend pourtant le risque, tant il est, tout comme les milieux militaires sionistes, sous le choc d'une opération qui a pour la énième fois depuis 2015 changé radicalement la donne et rabattu les cartes, signe du séisme provoqué par Ansar Allah ce vendredi 25 mars, date anniversaire de la guerre mondiale contre le Yémen. Schneider se réfère à une double image, celle de la capitale yéménite, Sana'a, datée de 2015, quand il était littéralement submergé par des tapis croisés de bombes, et celle de Riyad de 2022, qui en présente à quelques exceptions presque l'exacte reproduction. Que de chemin parcouru par les Houssis. Cela fait 8 ans que Ben Salman les combat de toutes ses forces sans pour autant réussir à avoir la peau de ces Houssis, qui ne cesse de montrer en puissance et de montrer menaçant. Cette milice-là n'est plus une menace locale, réduite à quelques provinces yéménites, mais régionale avec cette redoutable machine balistique qu'elle a et qui broie tout sur son chemin. Et d'ajouter, au fait les Houssis ont l'art de tâter le terrain, de flairer le moment propice, d'identifier le talon d'Achille de l'adversaire, puis de porter le coup, et c'est regrettable de voir les Saoudiens et les Émiratis dans une pareille situation, sans que les États-Unis, leurs alliés traditionnels, n'allient pas au-delà d'un soutien verbal et veuillent tremper sa chemise. Que faire ? S'interroge spécialistes. Riyad ou Abu Dhabi n'ont d'autre choix que de se jeter dans les bras d'Israël ou se soumettre aux exigences énergétiques de Washington pour s'attirer la faveur US, suivant l'équation suivante, pétrole contre sécurité.